Chapitre 35. L'incendie. Dans le palais Constantin, on ne sut rien des événements de la nuit. Seulement, de grand matin, l'archiprêtre Arsace parut devant l'empereur et le pria instamment de rendre contre le patriarche schismatique un décret de bannissement afin de l'empêcher de célébrer la solennité de Pâques devant la cathédrale. L'empereur aurait volontiers différé encore de prendre cette mesure. Il hésitait, comme toujours. Eudoxia prit la parole. « Si vous n'aviez pas, sire, hier même, donné devant lui l'ordre de l'emmener hors de Sainte-Sophie, l'hésitation d'aujourd'hui, sans être ni bonne ni sage, serait encore admissible, bien que dans les conjectures actuelles, elle semble tout à fait impossible. Puisque vous avez, pour de bonnes raisons, interdit à Chrysostome l'entrée de l'église, vous devez aussi le proscrire de la ville, et pour toujours, car il n'est dans la ville qu'à cause de l'église. Le peuple fidèle ne doit pas rester sans chef. » En attendant, le vénérable Arsace pourrait officier comme archiprêtre jusqu'à ce qu'il ait été sacré évêque et qu'il puisse occuper le siège patriarchal vacant. L'empereur signa le décret en silence et le remit au secrétaire Patricius, qui se rendit en toute hâte au palais du patriarche. Les traces en gardaient toutes les issues pour prévenir toute tentative d'évasion, mais dans le palais même régnait le plus grand calme, et Patricius trouva Chrysostome en conversation sérieuse avec deux évêques, ses amis intimes et dévoués. Patricius était un courtisan comme on les aimait au palais Constantin. Cependant, la simple dignité du patriarche l'intimida malgré lui à un tel point qu'il lui présenta le décret avec un grand respect et en balbutiant quelques paroles incohérentes de regret. Chrysostome lut la sentence, la fit lire à l'évêque Lysius et dit ensuite à Patricius « Je vous prie d'annoncer à l'empereur que je quitte sur le champ cette maison, et que je quitterai la ville aussitôt après avoir dit adieu à mon clergé dans l'église, que je m'embarquerai pour la Bithynie, pour me rendre de là à Cucusus dans la petite Arménie. Là, comme ici, je me ferai un saint devoir d'appeler les grâces et les bénédictions de Dieu sur lui et sur toute sa maison. « Oh, ne me plaignez pas, » dit-il après que Patricius se fût éloigné aux deux évêques, ses amis, qui ne pouvaient maîtriser l'expression de leur tristesse. « Pensez-vous, vénérable frère, que je ne puisse faire acte de résignation à la volonté de Dieu aussi bien dans les monts tauriques que sur le rivage du Bosphore? S'il en était ainsi, vous auriez raison de vous affliger sur mon sort, mais grâce à Dieu, il n'en est rien. Venez, aidez-moi à rendre courts et paisibles les adieux que je dois faire. » Dans l'antichambre, Sérapion se montra tout en larmes au patriarche. Après les événements de la nuit, on était préparé à ce résultat que confirmait l'arrivée du secrétaire de l'empereur. Aussi personne n'avait besoin d'explications. Et déjà, un grand nombre d'évêques et de prêtres s'étaient réunis dans la sacristie, attendant Chrysostome pour recevoir ses adieux. Tous étaient profondément émus, car tous savaient qu'avec lui disparaissait l'esprit évangélique, pour faire place à un esprit des plus mauvais. Chrysostome lui-même eut de la peine à contenir son émotion, à la pensée de son cher troupeau qu'il était forcé d'abandonner à un mercenaire et au lourd ravisseur. En quelques mots, il recommanda tous ceux qui étaient présents à Dieu. Il se recommanda lui-même à leurs prières et se rendit ensuite, les larmes aux yeux, dans une pièce voisine où quelques dames nobles et pieuses attendaient sa dernière bénédiction. Aux diaconesses Pentadia, Procla et Olympia s'était jointe Salviana, princesse de Maurétanie, qui menait à la cour d'Arcadius, son parent, une vie toute étrangère au monde et uniquement occupée des choses du ciel. Elles s'agenouillèrent devant Chrysostome, baisèrent ses pieds et le bas de son vêtement, mais aucune d'elles ne put dire un seul mot. La douleur les rendait muettes. « Consolez-vous, leur dit-il avec douceur. Vous avez mis sous les pieds le monde avec tous ses faux biens, et vous pourriez espérer avoir ici-bas une existence tranquille et satisfaite ? Comment cela se pourrait-il? Comment voudriez-vous pratiquer la plus précieuse des vertus, la patience dans la tribulation, et recevoir ensuite votre récompense si vous meniez une vie exempte de souffrance? L'or s'épure au feu. De même, la patience, cette vertu si précieuse, s'éprouve au feu des dures épreuves. Ainsi donc, ne pleurez pas sur moi, ni sur vous, mais bien sur ceux qui causent cette grande calamité. Restez fidèles dans le service de Dieu, et quant au nouvel évêque, pourvu qu'il remplisse régulièrement ses saintes fonctions, soyez lui aussi dévoué qu'à moi-même. » Il leur donna sa bénédiction Il les quitta aussitôt pour prier encore quelques instants dans l'église. Ensuite, il sortit par une porte latérale, et le commandant Lucius, avec quelques traces, le conduisit, en compagnie des deux évêques ioniens qui ne voulaient pas le quitter, rapidement et furtivement jusqu'au port, où une barque l'attendait pour le conduire en Bithynie. Il ne revit plus le Bosphore ni la ville impériale, et mourut bientôt dans les souffrances de l'exil. Ses amis et ses partisans s'enfuirent de l'église qui avait perdu leur évêque, et ils prièrent Dieu d'abréger le châtiment que méritait une pareille iniquité. Vers 9 heures du matin, Arzas, avec Sévérian, accompagné d'une suite nombreuse et brillante, se rendirent à Sainte-Sophie pour célébrer les offices solennels de la fête de Pâques et pour attendre le couple impérial qui devait y assister. Mais quelle surprise! Un silence de mort régnait dans l'avant-cour. Pas une âme n'était venue. Quand on voulut ouvrir les portes de l'église, on s'aperçut qu'elles étaient fermées au verrou à l'intérieur, comme pour refuser l'entrée aux intrus. Les uns voulaient enfoncer violemment les portes, d'autres cherchaient à les ouvrir avec précaution. « Allez par la cour du nord, » dit Arzas à Florus, « et par la petite porte de la sacristie, qui même étant fermée, sera facile à ouvrir. Vous pénétrerez dans l'intérieur, et vous nous ouvrirez le grand portail. Vous connaissez le chemin. Prenez quelques hommes avec vous, et veillez à ce que rien ne soit endommagé. » Florus se hâta d'exécuter ses ordres. Pendant ce temps, l'archiprêtre se promenait avec Sévérian dans le vestibule en lui exprimant son étonnement de la désertion complète de l'église. « Cela me paraît facile à expliquer, » dit Sévérian avec un froid sourire. « La nuit dernière, on a chassé le peuple et ce matin, Chrysostome, qui pourrait être ici ?»« Que dira l'empereur, qui ignore les événements de la nuit dernière en voyant l'église si vide ?» dit Arzas d'une voix larmoyante. Ne pensera-t-il pas que toute piété s'est évanouie avec Chrysostome? Ne pourrait-on pas, par le moyen des traces, forcer un peu de peuple à entrer? Peut-être bien, vénérable père. Cependant, je dois vous dire que la partie pieuse du peuple a quitté la ville par milliers et s'est réunie dans la campagne sous la conduite des prêtres de Chrysostome pour n'être pas en contact avec nous pendant la solennité de Pâques. Il semble décidé au schisme et bien résolu à ne pas vous reconnaître. Oh, les rebelles! « Il se soulève contre l'empereur et contre l'église ?» s'écria Arzas en levant les mains au ciel, comme pour le prendre à témoin et invoquer son appui. Sévérian n'eut pas le temps de répondre. Un cri si terrible partit du groupe qui les accompagnait que l'évêque de Gabalda et l'archiprêtre s'arrêtèrent stupéfaits. Le grand portail venait de s'ouvrir violemment, poussé du côté de l'intérieur. Florus et ses compagnons, pâles d'effroi, se jetèrent précipitamment dans le vestibule. Le cœur de l'église était en flammes. Le feu est à Sainte-Sophie. Ce cri d'horreur vola de bouche en bouche. Les monstres ! Cria Sévérian. Est-ce eux, les rebelles ? Demanda Arzas. Qui serait-ce ? Dit Florus. Courons chez l'empereur, dit Sévérian. Ce clergé incendiaire, schismatique, indiscipliné, et toute la séquelle du patriarche doit recevoir son juste châtiment. Ma cathédrale se consume dans les flammes. S'écria Arzas, tremblant de colère et d'effroi. Sévérian l'entraîna au palais Constantin, pendant que de tous côtés les hommes accouraient pour porter secours autant que pour satisfaire leur curiosité. « Comment le feu a-t-il pris ? » se demandait-on l'un à l'autre. « Il est tombé du ciel pour punir les horreurs de la nuit dernière, » dit un vieillard. « Non, » fit un autre, « il est sorti du sein de la terre pour empêcher qu'Arzas ne profana Sainte-Sophie, comme autrefois à Jérusalem, le feu sortit des entrailles du sol quand Julien l'Apostat voulut rebâtir le temple. « On dirait que c'est toi qui l'as allumé pour tirer vengeance de l'exil de ton patriarche excommunié, » dit un insolent matelot. « Il fait mal accueilli. » « De quoi se mêle cet Égyptien ? Connaît-il notre patriarche ? Le sien est parti d'ici couvert de honte et d'ignominie. C'est lui qui est cause de tout ce mal. Ne dites pas d'absurdité et ne vous querellez pas inutilement. » dit un homme d'extérieur convenable. Une torche qui sera tombée sur un des sièges du chœur, un cierge placé trop près d'un livre, voilà vraisemblablement la cause de l'incendie. Ne grossissez pas le malheur par vos querelles et vos discordes. Mais cette explication simple et probable ne suffisait pas à l'exaltation du moment. Les uns voulaient voir dans l'incendie un châtiment surnaturel de Dieu, les autres y voulaient trouver un crime. Les voilà, ces hommes pieux, ces dévots, ces ascètes, ces saints, dit Sévérian en terminant son récit devant le couple impérial. Ils ont de l'or sur les lèvres, du poison dans le cœur et le crime à la main. Le crime sera sévèrement recherché et puni, répondit l'empereur Arcadius. Le préfet de Constantinople va commencer immédiatement l'instruction et appeler les personnes sur qui retombe le soupçon. Vous, vénérable père, vous aiderez Optatus dans l'accomplissement de sa tâche. J'attends ce concours de vous principalement, vénérable Arsace. L'outrage fait à une église cathédrale touche de près à son évêque. Vous voyez, vénérable père, que l'empereur, justement irrité, attend de votre grand âge une ardeur toute juvénile. Eudoxia fit cette observation avec une certaine malice. Elle ne pouvait se consoler qu'Arsace occupa le siège patriarchal avant Sévérien. L'archiprêtre répondit que son zèle n'avait pas besoin d'être réchauffé. Au sortir du palais impérial, il se rendit chez Optatus et dressa avec lui la liste des suspects, principalement composée de prêtres et de femmes, qui furent aussitôt arrêtés. L'incendie fournit un prétexte pour se saisir des personnes qu'on supposait vouloir se tenir en dehors de tout rapport religieux avec le nouveau patriarche, et dont on redoutait l'exemple et l'influence sur le peuple. Au premier rang se trouvait Olympia. Épuisée de fatigue et triste jusqu'à la mort, elle était agenouillée avec quelques-unes de ses compagnes auprès de la dépouille inanimée de Flora. Mais elle ne disait qu'avec peine les prières qui d'ordinaire tombaient facilement de ses lèvres, et de temps à autre, elle restait muette de douleur et d'abattement. « Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, n'entrez pas en jugement avec nous. » Telles étaient les seules pensées qui se présentaient clairement à son esprit. À la fin, se sentant prête à défaillir, elle se leva et alla dans la cour pour respirer l'air. Théonée et Elpis s'y trouvaient, le dos tourné à la porte. « Guide-nous de lui annoncer l'affreuse nouvelle, » disait Elpis. « Vous-même, bonne Elpis, » dit Olympia. Surprise, les jeunes filles se retournèrent et se trouvèrent en présence d'Olympia. Elpis parla d'une voix tremblante. « Un incendie s'est déclaré dans Sainte-Sophie. Le feu a consumé l'intérieur de l'église et réduit en cendres les constructions voisines. En ce moment, poussé par le vent, il s'abat sur le palais du Sénat. « Y a-t-il des malheurs personnels à déplorer ?» demanda Olympia. « Aucun, madame. Alors, bénissons dans le malheur la miséricorde de Dieu, bonne Elpis. » Elpis se tut et resta comme anéanti. Théonée poussa un soupir. « Oh, madame, il y a encore autre chose qui nous afflige. Il faut que vous le sachiez. » « Parlez, mon enfant. Je puis aujourd'hui tout supporter, » dit Olympia. Cependant, elle était d'une pâleur mortelle, et un léger tremblement agitait tout son corps. « La noble Gunilde n'est pas revenue avec nous, » reprit Théon. « Si elle avait eu le sort de Flora, vous l'auriez rapporté ici, n'est-ce pas ?» dit Olympia, et ses yeux se remplirent de larmes. « Nous l'aurions fait, » répondirent ensemble les deux jeunes filles. « Non, » ajouta Théon, « elle n'est pas morte, la noble Gunilde. » « Elle sera liée avec les néophytes d'une autre diaconesse, » dit Olympia. « Non plus, madame. »« Que lui est-il donc arrivé ?» demanda Olympia, vivement tourmentée. Elpis se chargea de la réponse. Au moment où un soldat s'avança, l'épée nue, contre notre Saint-Père Chrysostome, au moment où Flora se jeta au-devant du coup mortel qu'elle reçut dans le cœur, à ce moment un autre soldat s'élança sur Gunilde, la prit dans ses bras et l'emporta. Je me trouvais à l'autre bout de la chapelle baptismale, et j'ai vu ces deux faits s'accomplir en un clin d'œil. Depuis, je n'ai plus pensé à la noble Gunilde, et c'est maintenant seulement, quand Théonée m'a demandé après elle, que cette scène m'est revenue à l'esprit. « Êtes-vous bien sûr d'avoir vu un soldat ?»« Aussi sûr, madame, que je vous vois en ce moment. » « Alors, assurez-vous, les traces étaient envoyées pour chasser de Sainte-Sophie notre Saint-Père et le peuple pieux. Ils n'ont maltraité les femmes qu'autant qu'elles leur faisaient obstacle. » Il ne faut pas penser à un enlèvement. L'impératrice se sera souvenue de Gunilde et aura donné l'ordre de la mettre en lieu sûr pendant cet affreux désordre. Comment les traces ont-ils pu reconnaître Gunilde sous son voile ? Demanda Elpis, toujours inquiète. Oh, mon enfant, quand l'impératrice ordonne, il se fait des choses très étonnantes, dit Olympia avec tristesse. D'ailleurs, le commandant l'aura reconnu et désigné aux soldats. Ah, que n'est-elle auprès de nous ? Soupira Elpis. « Nous sommes tous dans la main de Dieu, » dit Olympia avec douceur. « Mais croyez-moi, Elpis, Gunilde est plus en sûreté dans le palais Constantin qu'au milieu de nous. » À peine achevait-elle ces mots qu'une servante accourue, tout agitée, annonçait l'arrivée d'un officier d'Optatus qui avait l'ordre de conduire Olympia devant le préfet. « Voyez comme j'avais raison, » dit Olympia à Elpis. « Suivez-moi chez Optatus. » Vous êtes si épuisé de fatigue, et si vous partiriez maintenant ? » Fit Théoné. « Si Dieu m'appelle, pourquoi non ? » « Dieu ? » Fit Théoné avec l'accent de la protestation la plus énergique. « C'est la haine et la méchanceté qui vous appellent, madame. » « Elles servent Dieu sans le savoir et sans le vouloir, » répondit Olympia. Appuyée sur le bras d'Elpis et suivie de Théoné, elle s'éloigna.